ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, Onde Femmes, Radio Zone. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis la Suisse, depuis Genève, 033 depuis Bâle. Au programme ce soir, dans quelques instants, les informels, le bulletin de nouvelles de la pleine lune, suivi des coups de cœur de Marjolaine. Marjolaine, qu'est-ce que tu nous as préparé ?
Je vous ai préparé une chose extraordinaire, mais je ne peux pas le dévoiler maintenant. Mais ça va être très bien, il y aura une interview, on sera beaucoup de femmes.
Alors rendez-vous à 19h30 pour les coups de cœur de Marjolaine. Non, à 19h, excusez-moi. Et puis, un programme extraordinaire toute la soirée. Restez à l'écoute sur 93.8 MHz, Onde Femmes, Radio Zone. Je vous rappelle aussi notre adresse. C'est Onde Femmes sur Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205, Genève. Et n'oubliez pas, c'est le moment de payer, d'acheter votre carte d'auditeur ou de votre carte d'auditrice. Vous la commandez en nous téléphonant ou en nous écrivant. Je vous rappelle encore le numéro ? D'accord. 50 40 51 41 023 depuis Genève. À tout de suite.
Et cette carte, ça sera aussi pour fêter le printemps.
Radio Pleine Lune, 3.8 MHz, Onde Femmes, Radio Zone, nos nouvelles. À Alger, pour l'occasion du 8 mars, les Algériennes sont descendues dans la rue. Elles s'opposent au dialogue entre le pouvoir et les islamistes. Plusieurs centaines de femmes ont exprimé ce mardi 8 mars à Alger leur opposition au dialogue entre le pouvoir et les islamistes lors d'un rassemblement public organisé par des associations à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Brandissant des fleurs, elles ont scandé pendant plus d'une heure leur hostilité à l'intégrisme et leur colère contre les autorités qui ont récemment annoncé leur intention d'ouvrir un dialogue politique avec les intégristes pour sortir de la crise qui secoue le pays depuis plus de 2 ans. Les femmes ont très peur que ce dialogue politique se fasse sur leur dos. Pas de dialogue avec les tueurs, à bas l'intégrisme, ni Iran, ni Soudan, l'Algérie et l'Algérienne ont notamment clamé les manifestantes qui ont finalement refusé d'entrer dans la salle Ibn Khaldoun située non loin du palais du gouvernement où était prévu un meeting, préférant rester dans la rue. Les manifestantes ont bloqué la circulation avec des banderoles rouges et apostrophé en français le chef de l'État, le général Yamin Zerouat. C'est un acte de bravoure incroyable quand on sait que les femmes sont devenues aujourd'hui la cible des attentats fanatiques, uniquement d'ailleurs parce qu'elles sont femmes et qu'elles ne se cachent pas, soit derrière les voiles, soit derrière les portes des maisons. Il faut savoir que plus de 29 femmes ont été tuées, assassinées depuis 2 ans en Algérie. Plusieurs d'entre elles, pendant la manifestation, portaient des portraits des femmes, d'écrivains et de journalistes victimes d'attentats terroristes officiellement attribués au groupe armé islamiste. L'ONU reconnaît, publie un rapport accablant sur le trafic d'organes, une pratique monstrueuse reconnue finalement publiquement. L'existence d'un trafic d'organes en vue de transplantation à des patients riches est désormais admise comme une réalité par l'ONU, comme l'atteste un rapport qui vient d'être publié. Des trafics d'organes existent probablement dans plusieurs pays asiatiques et latino-américains. Le rapport cite le cas de 2 adolescents népalais amenés de force en Inde en vue de prélever leurs reins en août dernier. La coopération entre les autorités et la police des 2 pays avait abouti à la libération de ces jeunes qui ont pu rentrer dans leur pays. Ce récent incident n'a fait qu'allonger la liste noire des enlèvements d'enfants faisant l'objet de trafic d'organes. Ainsi, les adoptions mal documentées de 3000 enfants brésiliens qui ont d'ailleurs incité les autorités à ouvrir une enquête. En Argentine, une clinique psychiatrique située près de Buenos Aires doit répondre de plus de 1300 disparitions suspectes. Des tombes clandestines contenant des corps mutilés avaient été découvertes sur le terrain de la clinique. L'attention avait été éveillée par la constatation que des malades bien voyants sortaient aveugles de la clinique ou n'en sortaient pas du tout. En Colombie, la faculté de médecine de l'université de Barranquilla doit répondre d'accusations analogues. Au Mexique, une floraison de cliniques privées près de la frontière américaine éveille également les soupçons. Les Africaines se mobilisent. Consommer africain, tel est le slogan des femmes de l'Ouest africain qui se sont réunies récemment à Dakar. Lors de ce séminaire rapporté par le magazine Amina, elles ont rappelé que, comme ailleurs en Afrique, les femmes sont celles qui produisent le plus dans le domaine agricole. Mais si elles produisent beaucoup, elles manquent d'aide en matière de conservation, de transformation et d'utilisation des récoltes. Elles ont également dit et redit que si consommer africain dépend en premier lieu d'elles, cela suppose que les hommes acceptent de bousculer leurs habitudes. Vu la situation financière de l'Afrique, il faudra bientôt manger ce qu'on peut et non ce qu'on veut, a rappelé une déléguée, ajoutant que la polygamie va diminuer proportionnellement à la pauvreté. Les Africaines réunies à Dakar ont également insisté sur l'importance de la formation pratique des femmes et surtout sur l'importance de leur accès au crédit. En Iran, une femme iranienne s'est immolée pour protester contre la condition de la femme à Téhéran. Le parti de la nation iranienne auquel elle appartenait a déclaré que les autorités avaient interdit à la presse d'annoncer l'événement. Tu me redonnes ? Dans les Émirats, au Dubaï, un chauffeur de taxi a été condamné à un mois de prison ferme pour avoir envoyé des baisers dans le rétroviseur à sa cliente britannique. Offusquée de tant de prévôté, celle-ci s'était plainte à la police. En Allemagne, on projette la création d'un impôt nataliste qui est fort contesté. Cet impôt serait réservé aux hommes et aux femmes qui n'ont pas d'enfants et devrait permettre d'aider les gens avec enfants. À l'occasion de son discours autour de la Journée internationale des femmes le 8 mars, François Mitterrand a déploré la faible représentation féminine au Parlement. Le chef d'État français, abordant le domaine des femmes au travail, a déclaré, je cite, une certaine souplesse indispensable pour que les femmes qui ont à la fois à élever leurs enfants et à travailler puissent concilier ces deux tâches. On se demande pourquoi les hommes, là, je ne cite plus, pourquoi les hommes n'ont pas non plus cette souplesse. Finalement, ce sont leurs enfants. Et je recommence la citation. Lorsque j'évoque la possibilité d'un nouveau contrat social sur l'emploi, c'est précisément l'un des domaines dont devraient s'emparer les grandes organisations syndicales. En ce qui concerne la politique, Mitterrand a dit, je cite toujours, « Il est inadmissible qu'il y ait si peu de femmes parlementaires ». Mitterrand a estimé que l'intention du premier secrétaire du Parti socialiste de placer alternativement un homme et une femme sur la liste pour les élections européennes allait dans le bon sens, tout en précisant n'avoir pas à se prononcer sur le procédé. Je cite toujours, le système des quotas est mauvais dans son principe, dit-il, mais puisque cela ne se fait pas naturellement, il faut pendant quelque temps prendre les nouvelles habitudes. En France, une femme cadre à la recherche d'un emploi a lancé à Nantes une campagne d'affichage public pour attirer l'attention des décideurs et démontrer son esprit d'entreprise. Myriam, qui a dirigé durant 4 ans un centre de formation professionnelle pour adultes, est à la recherche d'un poste d'assistante de direction dans une industrie ou d'un poste de direction d'une maison de retraite sur toute la France, a-t-elle précisé. Son curriculum vitae hors du commun, puisque ce sont des affiches de 4 mètres sur 3, orne 23 murs de Nantes et de sa région. Selon la jeune femme, le fait d'avoir négocié avec un imprimeur et 4 afficheurs pour obtenir gratuitement cette campagne prouve, s'il en est besoin, ses capacités de manager et son esprit d'entreprise. Neuf femmes russes bientôt dans l'espace. Neuf femmes russes ont entamé un stage d'entraînement de 4 mois, la tête en bas, en vue de vols spatiaux de longue durée. Cela ne va pas être facile pour ces femmes volontaires, a prédit un superviseur de l'expérience, administrant du même coup la preuve que le sens de la litote n'est pas l'apanage des Britanniques. Depuis des années, les savants russes se livrent à terre à des expériences sur les séjours prolongés de l'homme masculin dans l'espace, mais c'est la première fois que des expériences de ce genre sont tentées sur les femmes. Une des participantes de cette expérimentation sera choisie pour un séjour en novembre dans la station Mir. Hold-up insolite aux Pays-Bas. Dans la région de Zwolle aux Pays-Bas, cette région est frappée par une façon plutôt originale de cambrioler les supermarchés. C'est le cambriolage au sein nu. Par 3 fois, le même scénario s'est reproduit. Une demi-douzaine de femmes, on pense qu'elles sont originaires d'Europe de l'Est, entrent bruyamment dans le supermarché et se mettent les seins à nu. Profitant de ce que le magasin tout entier est rivé à ce striptease impromptu, des complices raflent tiroir-caisse. Les bandits de charme ont ainsi récolté plus de 10 000 florins, c'est-à-dire 8 000 francs, dans 3 supermarchés. Mais les témoins sont tellement éblouis qu'ils n'arrivent absolument pas à décrire les voleurs. Pour les Américo-Irlandais, un vrai Irlandais ne peut être homosexuel. Du coup, les organisateurs de la célèbre parade de la Saint-Patrick à Boston, qui réunit tous les Irlandais, tous les gens d'origine d'Irlande aux États-Unis, ont décidé samedi d'annuler les festivités, rompant ainsi avec une tradition presque centenaire, en raison d'une décision de la justice qui autorisait la communauté homosexuelle irlandaise à participer au défilé. En parlant d'homosexuels, 800 homosexuels, dont le chanteur Jimmy Somerville, manifestaient lundi soir à Londres. Ils ont été dispersés par la police alors qu'ils tentaient de s'approcher du Parlement. Les manifestants protestaient contre la décision prise en février par le Parlement de fixer à 18 ans et non à 16 l'âge du consentement légal pour les relations sexuelles entre personnes du même sexe. Les premières ordinations de femmes à la prêtrise ont commencé en Angleterre et l'église d'Angleterre est au bord du schisme. Le 12 mars, 32 femmes ont donc reçu à Bristol le sacrement de l'ordination avec devant l'église des manifestantes féministes qui s'étaient rassemblées avec des banderoles réclamant l'égalité des droits. Dans les prochaines semaines, d'autres évêques ordonneront des femmes prêtres par paquets de 20, 30, 80 comme à Southwark, 50 à Chelmsford, plus d'une soixantaine à Oxford, une trentaine à Liverpool. C'est une lame de fond. 1200 Anglais seront ordonnés, ça représente 10% du clergé, ce qui portera à plus de 3000 le total des femmes prêtres dans la communion anglicane à travers le monde. Communion, l'expression n'a jamais paru aussi usurpée, les adversaires de l'ordination des femmes n'ont pas désarmé. Autour d'un prêtre extrémiste, Francis Brown, un petit groupe de militants appelé Ecclesia transporte un cercueil sur lequel ils ont badigeonné Church of England. Pour eux, la cérémonie du 12 mars et une parodie. Ce ne sont pas 32 nouveaux prêtres, disent-ils, qu'on ordonne, mais 32 membres d'un nouvel ordre travesti déguisé en prêtre. Quant au Vatican, bien sûr, toujours la même position. Il a souligné que ces ordinations féminines allaient rendre plus difficile la réconciliation entre les catholiques et les anglicans. Il ne s'agit pas d'un problème de justice ou d'égalité entre les hommes et les femmes, a-t-on précisé, expliquant, je cite, que dans la fidélité à une pratique ininterrompue au cours des siècles, l'Église catholique estime ne pas avoir le droit d'autoriser de telles ordinations. Fin de citation. C'est comme ça. Et voilà. « En Colombie, les défenseurs des droits de l'homme sont menacés. Deux personnes sont venues témoigner devant la Commission des droits de l'homme à Genève. Il s'agit de Lourdes Castros, avocate, et de Hernando Herrera, étudiant en théologie. Pour eux, ceux qui contestent le régime risquent souvent leur vie. Les défenseurs des droits de la personne sont particulièrement menacés et dénoncent les exactions commises par les forces militaires ou paramilitaires qui bénéficient d'une impunité totale. Ainsi donc, Lourdes Castro, avocate, collabore avec un groupement communautaire paysan de Colombie, Hernando Herrera, étudiant en théologie et aspirant prêtre. Ils travaillaient tous les deux dans une banlieue pauvre de Bogota. Tous deux ont dû fuir leur pays en catastrophe. Ils ont donc témoigné des graves violations commises quelques mois avant les élections législatives et présidentielles. Lourdes Castro travaille pour l'organisation Minga, qui... pour la promotion des alternatives sociales avec les indigènes et paysans. Sous prétexte de lutte contre le trafic de drogue, ces paysans indigènes sont chassés de leurs terres par milliers, souvent au profit de spéculateurs ou de potentats locaux. Lourdes Castros parle 600 000 personnes déplacées. Elle dénonce les exactions des brigades mobiles qui opèrent dans les zones où elles travaillent. Créées en 1990, elles ont été déployées dans les zones où l'opposition armée est la plus forte. Après avoir abattu des civils, ces militaires les revêtent d'habits de guérilleros, a-t-elle expliqué. Cette mascarade est facile à démasquer puisque les morts ont des impacts de balles à des endroits où leurs vêtements n'en portent pas. Selon une étude menée aux États-Unis, l'épidémie de sida progresse nettement parmi les hétérosexuels. Pour la première fois, en 1993, le virus a connu l'expansion la plus rapide parmi les hétérosexuels qui ne sont pas en contact avec les principaux groupes de population à risque, c'est-à-dire les hommes bisexuels et les toxicomanes. La maladie progresse de manière beaucoup plus rapide au sein des communautés noires et hispaniques, catégorie de population majoritairement défavorisée et donc moins sensible aux efforts de prévention dont les campagnes visent le grand public au sens large, sans chercher à atteindre de manière plus ciblée certains groupes ethniques ou linguistiques. D'autre part, l'augmentation du nombre de cas a été beaucoup plus forte chez les femmes que chez les hommes. Si la progression de la maladie semble en passe d'être contrôlée au sein de la communauté homosexuelle localement, certaines tendances inquiétantes ont été révélées. Par exemple, beaucoup de jeunes homosexuels de San Francisco, par bravade ou par fatalité, ont pris l'habitude de renoncer à l'usage du préservatif. Expérience intéressante à Lisbonne. Afin de démontrer l'absurdité de la circulation urbaine et de ses embouteillages, le Parti socialiste de Lisbonne a organisé une compétition originale. Sur une distance de 2 km au centre de la capitale, une Ferrari et un âne se sont affrontés dans une course de vitesse. À grand renfort de vroom vroom et de hi-han, les deux champions ont donné le meilleur d'eux-mêmes, sans tenir compte bien sûr de la pollution difficilement comparable entre les deux moyens de locomotion. Le résultat est tout à fait clair. C'est l'âne qui a gagné avec 4 minutes d'avance. En Suisse, au Conseil national, la loi sur l'égalité a finalement été votée, mais sous sa forme minimaliste, à tel point qu'on peut se demander à juste titre si c'est un progrès pour les femmes. Malgré que plusieurs voix dans la Chambre du peuple aient proposé de renvoyer même complètement cette loi ou projet de loi qui concrétiserait enfin l'égalité constitutionnelle, ces propositions étaient menées entre autres par Suzette Sandeau, libérale vaudoise, Geneviève Aubry, radicale bernoise, le parti des automobilistes, la députation vaudoise. Malgré tout cela, le Conseil national a donc entamé l'examen de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes et peut-être que le principe à travail égal, salaire égal, a enfin des chances de se concrétiser. Cependant, c'est la version de la Commission qui a été acceptée, version qui va beaucoup moins loin que celle proposée par le Conseil fédéral et Arnaud Kohler en particulier. Ainsi, la discrimination est interdite en ce qui concerne les salaires, mais non dans tous les autres domaines et entre autres par rapport à ce qui touche à l'embauche ou aux offres d'emploi qui pourront continuer à être rédigées pour un seul sexe. Donc on n'engagera pas de femmes ou pas d'hommes et puis voilà, c'est fini. Il s'agit là d'une sérieuse limitation de la portée de la loi. En ce qui concerne la question du harcèlement sexuel aussi, on est allé très très peu loin puisque on a retenu comme définition du harcèlement sexuel, c'est une version très restrictive puisque on retient comme harcèlement des menaces, des promesses ou d'autres formes de pression destinées à obtenir des faveurs sexuelles. Cela est donc un harcèlement sexuel dans le lieu du travail et si on a subi cela, on peut, si on a encore, on ressent encore les effets, porter plainte pour dommages à intérêts. Or, on peut préciser que ces menaces et ces formes de pression sont actuellement déjà punies, passibles de poursuites pénales si elles ne se passent pas dans le milieu du travail. Donc, comme on voit, la Chambre a donc préféré la version de la Commission plutôt que celle du Conseil fédéral pour définir la discrimination par harcèlement sexuel. Et selon de nombreuses féministes montées à la tribune, l'article ainsi voté devient une coquille vide. De nombreuses féministes étaient effectivement venues à l'intérieur de la salle, les députées féministes, mais pour les soutenir, des femmes étaient venues à l'appel de l'Union syndicale suisse pour être dans les tribunes et à l'extérieur et montrer leur présence. Elles étaient là avec des chaînes de ballons jaunes à l'emblème du soleil. Celles qui s'étaient rendues à Berne sur l'appel de l'USS, en majorité des syndicalistes et des membres du PS, savaient pourquoi elles étaient là, car disent-elles, il est très important que des femmes soient toujours présentes lorsqu'on discute des problèmes concrets les concernant. Il faut que les parlementaires sachent que nous les surveillons, même si nous ne sommes pas nombreuses aujourd'hui. D'autres étaient venus pour des raisons plus personnelles, telle une employée communale baloise, mère de famille, divorcée. Son poste de travail a été réduit de 70 à 50% et, dit-elle, je n'ai pas eu d'explication, mais je pense que c'est parce que j'ose me battre pour mes droits. Elle touche en effet un salaire inférieur à celui de ses collègues masculins et n'a jamais pu bénéficier de formation continue offerte au sein de son emploi. Tout au long des débats, plusieurs dizaines de femmes se sont relayées avec des ballons, des badges jaunes sur les tribunes ou devant le palais fédéral. D'autres suivaient la séance sur le téléviseur de la salle des pas perdus sur invitation de certaines conseillères nationales. Enfin, le café fédéral avait mis à leur disposition aussi une télévision. Suivant attentivement chaque intervention, en s'y rendant des cafés, elle commentait avec beaucoup de rire Suzette Sando, des applaudissements pour certaines, des cris d'indignation aussi pour Geneviève Aubry, que nous avons, qui a mérité le cochon, mais nous y reviendrons. Excusez-moi. Pour Patricia Schulz, directrice du Bureau de l'égalité, cette loi est cependant un instrument indispensable vu les nombreuses discriminations encore existantes. Une étude d'ailleurs a montré que cet écart de salaire économise, si on peut dire, 21 milliards par année qui sont économisés sur le dos des femmes. Patricia Schulz défend ainsi le renversement du fardeau de la preuve. C'est à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas de discrimination. Aujourd'hui, dit-elle, une femme voulant démontrer qu'elle est l'objet d'inégalités n'a rien entre les mains. L'employeur, au contraire, a accès à tous les renseignements concernant son personnel, conditions de travail, salaire, etc. Et pourquoi inscrire dans les lois la protection des femmes contre le harcèlement sexuel ? Parce que c'est une réalité, dit-elle, une atteinte à la dignité des travailleuses. La plupart des hommes vivent encore avec l'idée qu'ils ont le droit d'embêter les femmes. Cela maintient la structure hiérarchique. La majorité des femmes qui travaillent ont au moins une fois subi un harcèlement sexuel. Ces victimes qui ont longtemps vécu dans le silence, la honte et la peur ont commencé à en parler. Toujours en Suisse, le Conseil des États s'est penché sur la révision de l'assurance chômage. Le point le plus contesté concerne la motion de ce qu'on appelle un travail convenable. Les conseillers aux États ont cependant accepté la disposition qui stipule qu'après 4 mois, un chômeur peut être contraint d'accepter un travail qui n'a rien à voir avec son activité précédente ou pour lequel il est surqualifié, donc un travail beaucoup moins payé. 4 mois pour une personne qualifiée, c'est un délai trop court pour retrouver un emploi, ont estimé certains conseillers. Le démocrate jurassien, le Jean-François Roth, s'est même élevé contre l'essence de cette disposition. Selon lui, elle est discriminatoire envers les catégories de la population qui sont déjà les moins bien armées pour retrouver un travail, à savoir les ouvriers non qualifiés et les femmes. Quant aux étudiants et les jeunes qui quittent leur scolarité et qui n'ont pas trouvé de travail, ils ont fait également l'objet d'une discussion passionnée de laquelle ils ne sont pas sortis vainqueurs, puisque le Conseil des États s'est montré beaucoup plus sévère que le Conseil fédéral qui proposait de faire passer de 20 jours à 6 mois le délai d'attente maximum avant de pouvoir bénéficier des indemnités de chômage. Les sénateurs, eux, ont donné au gouvernement la possibilité d'étendre cette période à 12 mois. On pourrait donc, après, en sortant de son apprentissage ou de son école, rester une année sans rien toucher. C'est qui paiera, on se demande. Le socialiste Gianretto Plattner a fait le parallèle avec le SMIC jeune proposé en France. Soit il y a du travail, a-t-il dit, à un jeune qui profite de l'assurance chômage peut être puni car il commet un abus, soit il n'y a pas de travail, ce qui est le cas. Alors à ce moment, il n'y a aucune raison de se montrer particulièrement sévère envers les jeunes, a estimé le Ballois. À Genève, l'arrivée d'une femme au gouvernement genevois, on imagine, aurait fait faire un bond à la cause de l'égalité. Eh bien oui, ce bond existe, mais pas forcément en avant. Preuve en est le nouveau statut de l'animatrice parascolaire concocté par le département de l'instruction publique et sa chef Martine Brusfigraf. Remarquons d'entrée que le texte de ce document est féminisé. De tout le long, on parle toujours d'animatrice, bien que cette profession soit aussi ouverte aux hommes. Mais il semble trop compliqué d'écrire animateur-animatrice à longueur de paragraphe alors que les hommes ne sont qu'une poignée. La logique de ce marche cependant sur la barbe, car quand on arrive à l'article 23 du statut, on y lit, je cite, « L'animatrice a droit à son salaire pendant les périodes de service militaire ». Eh oui, on ne savait pas que les femmes faisaient du service militaire encore. Et plus loin, article 26. L'animatrice bénéficie de congés spéciaux suivants, 2 jours en cas de naissance d'un enfant. On avait cru qu'en Suisse, on avait en tout cas l'interdiction de travailler 8 semaines après l'accouchement. De deux choses l'une, soit la rédaction du statut de l'animatrice a été bâclée, soit l'égalité des sexes consiste en un nivellement des contraintes par le haut et des prestations par le bas. Voilà une conception qui sourit à la patrie et à l'économie. Les animatrices du parascolaire qui ont déjà vu leur salaire fondre n'en demandent pas tant. Merci Martine. Ce petit écho a été publié dans le courrier sous la plume de Manuel Grandjean. Et maintenant, distribution de cochons. Eh bien, le premier, bien sûr, à Geneviève Aubry, radicale jurassienne, qui s'est opposée avec Suzette Sandeau à la discussion sur l'égalité, déclarant même que le harcèlement sexuel pouvait parfois se justifier. Et toujours en parlant de cochons, d'ailleurs toujours à propos de cette discussion, on peut en administrer un autre, au Valaisan Bernard Combi, qui, en parlant des conseillères nationales qui sont toutes montées à la tribune pour défendre la loi, a dit... « Ah, c'est un véritable défilé de mode !» Continuons toujours avec Jean-François Cavin, secrétaire général du groupement patronaux vaudois. Pour lui, le harcèlement sexuel est un phénomène pas du tout important, moins important qu'on le dit. Et puis toujours et encore Suzette Sandeau, pour qui une loi sur l'égalité est anticonstitutionnelle et liberticide. Quand même, si on a plus de liberté d'opprimer les femmes, on va vraiment vers le totalitarisme. Et puis, dernier cochon au Salon de l'Auto et au Téléco PTT Suisse, qui, à l'occasion du 8 mars, pendant le Salon de l'Auto, ont mis au point une folle invention, une merveille de la technologie, des téléphones portables, des cabines téléphoniques mobiles. Oui, il suffit de les appeler, elles arrivent. Et puis, voilà, ils vous tendent l'appareil. On n'arrête vraiment pas le progrès. Ces cabines-là sont habillées tout en blanc et il est écrit dessus sur leur robe « Appel gratuit ». Elles sont jolies, bien sûr, elles sourient. Et oui, ce sont des hôtesses qui amènent les téléphones. Les hôtesses sur les capots, ça suffisait plus. Voici la les Miss Téléphones, lâchées aux quatre coins des halles avec un attel ficelé autour de la taille. Les promoteurs n'ont plus qu'à saisir le petit combiné. C'était les cochons de la semaine. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Ondes Femmes, Radio Zone.